France Inter, franceinter.com.
Bonjour Marion, merci. Les prochaines infos sur France Inter, c'est à 13h, bien sûr. Libéralisme ou décroissance ?
Il nous semble totalement déraisonnable que le petit yaourt à la fraise que l'on trouve sur les gondoles de supermarché incorpore 9000 km de transport, alors qu'une génération ou deux avant nous, un yaourt meilleur et plus sain était fait avec le lait d'une ferme voisine et les fraises du jardin, et dans un pot recyclable.
Ça vous dérange ? 01 45 24 7000 ou sur franceinter.com.
Et le monsieur que l'on vient d'entendre au début sur le générique, c'est Serge Latouche, qui est un des... On peut dire que c'est le créateur, je crois, du mot décroissance. Alors aujourd'hui, pendant une heure, nous avons une mission. Nous devons choisir ce que le monde deviendra au 21e siècle. Voilà. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour nous soutenir, ça ne va pas être facile. 01 45 24 7000, le standard de France Inter. Tous vos commentaires, vos idées, vos questions aussi sur franceinter.com. Bien sûr, nous vous attendons. Un petit tour du côté du sondage que nous réalisons chaque jour dans l'émission. Donc, que doit-on faire du libéralisme ou de la décroissance pour le 21e siècle ? Décroissance, 66%, libéralisme, 30%, ne se prononce pas, 3-4%. Donc pour l'instant, vous êtes tous pour la décroissance. Qu'est-ce que cette décroissance ? Qu'est-ce que le libéralisme ? On va en parler pendant une heure. Avec d'un côté Gilles Delafont. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, reporter, notamment au Journal du Dimanche. Et vous venez de publier un livre qui s'appelle « Allô la Terre, ici la France ». On y revient dans un instant. À côté de nous aussi Nicolas Ridoux. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Auteur du livre La décroissance pour tous. Alors vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas chroniqueur, non, vous êtes ingénieur, c'est ça ?
Et vous êtes... Moi je suis un citoyen ordinaire, voilà, qui a publié un bouquin par hasard, qui s'interroge et qui souhaite partager un peu ses interrogations avec les auditeurs.
Et La décroissance pour tous, c'est un petit peu le manuel de la décroissance pour essayer de comprendre ce que c'est. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va profiter de la présence de Gilles Delafont. Vous avez beaucoup voyagé, vous revenez de Chine d'ailleurs, là tout juste, vous étiez à Shanghai hier.
Non, à Shanghai hier et à Pékin la semaine précédente.
Oui. Donc le libéralisme et l'ultralibéralisme sauvage, vous connaissez bien. et il se trouve qu'au cours de tous vos voyages autour du monde, vous avez rencontré beaucoup de personnalités qui, elles, ont un petit peu les rênes de la planète, contrairement à nous. Et vous êtes revenu de tous vos voyages avec un constat. On va se pencher d'abord sur ce constat, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Le monde aujourd'hui est libéral.
Absolument. Absolument. Ou s'il ne l'est pas, il l'aspire à l'être.
Et le 21e siècle, c'est la victoire du libéralisme sur... Parce qu'il n'y a rien en face, il n'y a plus de socialisme, il n'y a plus de communisme.
Oui, je crois que c'est un constat pratique, ce n'est pas de faire de l'idéologie que de dire ça, absolument. C'est regarder par exemple ce qui se passe en Europe, regarder ce qui se passe aux États-Unis, regarder les économies émergentes, regarder... Vous parliez de la Chine où j'étais il y a une semaine, c'est assez effarant, c'est incroyable, c'est de l'ultra-capitalisme la Chine aujourd'hui. C'est 12% de taux de croissance, c'est une espèce de course éperdue, et effectivement pour reproduire des modèles de croissance qui sont les modèles libéraux, tout à fait.
Il n'y a plus un pays aujourd'hui dans la planète qui dise...
La Corée du Nord, peut-être, la Corée du Nord, oui. Cuba, oui.
Pas vraiment des exemples.
Oui, bah voilà, oui, absolument. Regardez au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, moi j'ai été très surpris. Au sein de la Commission européenne, si vous prenez les différents commissaires, le socialiste espagnol est plus libéral que le conservateur français.
Ouais. Et on notera d'ailleurs dans les récentes élections en France la disparition du mot socialiste ou socialisme sur les affiches électorales et même dans les propos.
Mais dans le même temps, vous aurez difficilement un homme de politique français qui s'affichera purement libéral.
Alors ça, on en reparlera tout à l'heure aussi parce que c'est très étonnant. Ouais, vraiment, c'est vrai, on ne dit pas votez pour moi, vous voterez pour libéralisme. Et c'est d'ailleurs un des thèmes centraux de votre livre, c'est le monde entier est libéral et il y a un pays qui freine pour plonger dans le libéralisme, c'est bien la France.
Oui, mais qui est un pays ultra-libéral
aussi. Mais pourtant qui est libéral.
Ah, complètement. C'est pour ça que votre sondage, il est quand même assez ambigu, parce que vous avez 66% des Français qui disent, selon votre sondage, qu'ils sont pour la décroissance et contre le libéralisme, mais en fait, on est un pays d'économie de marché. Et le libéralisme, c'est l'économie de marché. Seulement, le mot libéralisme en France, il a une connotation qui ne plaît pas du tout parce qu'il est tout de suite accolé à une idée anglo-saxonne. Et comme on est très gaulois, ça ne plaît pas.
On y reviendra dans un instant. Alors, on va essayer aussi pour planter le décor. Je me tourne maintenant vers Nicolas Ridoux. La décroissance, en deux mots, c'est quoi ? C'est le retour à la bougie ? Non, vous allez me dire, bien sûr.
Non, c'est pas du tout ça. Je voudrais, puisqu'on a attaqué par la Chine, citer le ministre chinois de l'Environnement. Et puis ensuite, je vous expliquerai ce que peut être la décroissance. Ce ministre chinois de l'environnement qui s'appelle Pan Yue, en tout cas en 2005, a dit...
Que je devais voir.
Vous deviez voir, voilà, qui expliquait dans Der Spiegel en avril 2005, il dit « Le miracle économique va bientôt prendre fin car l'environnement ne peut pas suivre. Un tiers de notre territoire reçoit des pluies acides, la moitié de l'eau de nos sept grandes rivières est maintenant inutilisable parce que trop polluée, alors qu'un quart de nos concitoyens n'ont pas accès à l'eau potable et la Chine va avoir dans les années à venir plus de 150 millions d'émigrés écologiques. » Nous avons fait l'erreur de croire que la croissance économique et les ressources financières qu'elle apporte allaient nous permettre de répondre aux crises environnementales et à l'augmentation de la population. Donc ça, vous voyez que même dans un pays comme ça, il y a des voix autorisées, officielles, des autorités chinoises qui disent « Peut-on encore continuer longtemps à ce rythme et dans cette direction-là »
Alors, la décroissance, c'est quoi ?
Eh bien, la décroissance, elle, c'est d'abord une sortie de cette idéologie, de ce dogme, de cette véritable religion de la croissance économique infinie. Et pourquoi on veut sortir de ce dogme ? Parce que quand on ouvre un peu les yeux autour de nous, on voit qu'on a, bon, d'une part, ce dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, une crise environnementale qui est absolument colossale et inédite dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, l'homme va peut-être être en position de se suicider. Hein, on a donc un changement climatique qui est avéré maintenant, avec ce réchauffement dont on a beaucoup parlé. On a un épuisement des ressources énergétiques, du pétrole, etc. On a un effondrement de la biodiversité. Je ne vais pas tout citer, mais il y a beaucoup de problèmes environnementaux.
On a une crise environnementale.
Crise environnementale dont les scientifiques nous disent, attention, si on continue comme ça, la survie de l'homme n'est plus assurée. Ce n'est pas un écologiste barbichu, chevelu, du fond du Larzac qui nous le dit, c'est 1500 scientifiques de toutes les nations du monde. Donc, crise environnementale. Ensuite, on a une crise sociale. Crise sociale parce que, moi j'ai lu dans le rapport du programme des Nations Unies pour le développement 99, ils nous disent, donc c'est les Nations Unies qui le disent, l'écart entre les pays les plus riches et les plus pauvres était de 3 à 1 en 1820. Mmh. Il est passé à 72 contre 1 en 1992.
Mais les pays pauvres ne sont pas enrichis, bien sûr que si.
Il ne faut pas nier effectivement l'enrichissement de certains pays pauvres. Mais on écarte les inégalités. C'est-à-dire que les plus riches augmentent beaucoup plus vite que les pauvres n'augmentent. Et on sait que ce sont les inégalités. Tout ce qui est pauvreté, richesse, c'est relatif. Ça n'a pas un sens absolu. Donc, crise sociale de mon point de vue.
Attendez. Ce qui est fondamental, celui qui ne mange pas, ce qui est fondamental pour lui, c'est de manger. Attendez. je m'excuse. En 20 ans, il y avait 1,5 milliard d'ultra-pauvres selon les différents chiffres des Nations Unies, c'est-à-dire moins d'un dollar par jour. Et en 20 ans, il y en a 500 millions qui sont sortis de l'extrême pauvreté. Alors il y en a peut-être dans le même temps, et il y en a assurément 5 millions, 10 millions qui se sont gavés et qui sont devenus ultra-riches. Mais le fait est, et il est incontournable, que 500 millions d'êtres humains au cours des 20 dernières années sont sortis de l'extrême pauvreté. Ça, c'est...
Alors, je suis d'accord avec ça, complètement. C'est étonnant que je sois d'accord complètement.
Hein. Non, mais je pense que vous avez trouvé des terrains d'entente.
Parce que, d'une part, ceux qui sont sortis de la pauvreté, c'est principalement en Asie. C'est absolument pas en Chine, comme
on le sait.
Mmh. C'est en Asie. Et on sait que ces pays-là...
Ah si, c'est en Chine aussi.
C'est pas en Afrique, je dis. L'Asie au sens large.
On est d'accord.
La Chine y compris. Chine et Inde,
d'accord,
bien sûr.
Ouais.
Pourquoi je suis d'accord ? D'abord parce que ces pays d'Asie sont en dessous de ce que l'on appelle l'empreinte écologique admissible. C'est-à-dire qu'on aurait beau jeu, nous, Français ou Américains, qui, si tout le monde consommait comme nous, on serait à 4 planètes. Hein, on a entendu ces chiffres.
Hein, absolument.
4 planètes pour les Européens, 6, 7, 8 planètes pour les Américains.
12 planètes pour la ville de Londres.
12 planètes pour la ville de Londres. Donc on est vraiment dans un état de surchauffe. Hein, on puise dans le capital. Donc on aurait beau jeu de dire aux Chinois ou aux Indiens, vous qui êtes à 0,6, 0,7 planètes, vous ne pouvez pas croître. Donc ça, c'est inacceptable. Donc moi, je suis d'accord pour dire que la croissance peut initialement avoir des effets positifs. Personne ne peut le nier. Mmh. Ce que je conteste par contre fortement, c'est ériger ce principe en un principe infini. C'est-à-dire de dire ce qui a marché à petite dose va marcher quelle que soit la dose. Parce que la croissance, pour ceux qui ont fait un peu de maths, c'est une courbe exponentielle. Mmh. C'est vraiment un effet de boule de neige.
Alors, la décroissance, c'est quoi ? C'est de bloquer cette courbe ?
La décroissance, c'est avant tout de revenir à une empreinte écologique admissible. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la planète, c'est principalement les pays du Nord, les pays qu'on appelle occidentaux, développés.
Juste pour que je comprenne bien, ça veut dire ne consommer qu'en fonction de ses besoins ? que en fonction de ses besoins essentiels. On enlève le superflu.
Là, on tombe sur un problème éthique, en fait. Hein. C'est une exigence éthique, de mon point de vue, c'est-à-dire tenter, parce qu'on n'arrive jamais à avoir un mode de vie idéal, mais tenter d'avoir un mode de vie tel qu'il pourrait être partagé par tous. Je crois que ça, c'est un principe éthique qui est c'est utopique, c'est ce qu'il faudrait viser. Mais je pense que c'est une boussole qui peut nous guider.
Alors attendez, avant de commencer, je voudrais qu'on fasse un premier tour au standard. On nous attend Jean-François. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes partagé aussi finalement, non ?
Déjà, merci de me donner la parole.
Je vous en prie.
J'apprécie largement la radio pour ça. Le titre déjà m'avait surpris. Il y a un petit côté manichéen qui déjà m'avait surpris, parce qu'opposer libéralisme et décroissance, déjà pour moi sous-entendait qu'on comprenait pas vraiment ce qu'était le libéralisme. Et pour moi le libéralisme, bon, c'est sûr que là on sous-entend libéralisme économique, mais le libéralisme repose quand même, c'est un fond de pensée qui repose sur la liberté individuelle. Et si on pense aux enjeux environnementaux qu'on évoque en ce moment, on va largement avoir besoin de ces libertés individuelles pour maximiser les probabilités de trouver des gens qui vont amener des réponses aux enjeux qui nous intéressent.
Mais avec les libertés individuelles viennent les responsabilités individuelles.
Alors précisément, et dans le commentaire que j'avais laissé, libéralisme ne s'oppose pas à régulation.
Tout à fait.
Et ce qui est important... Et je pense que c'est là où, à mon avis, il y a un malentendu, notamment en France, entre ce qu'est le libéralisme et la couleur que ça a en France. C'est que le libéralisme demande à ce qu'on laisse l'individu ses libertés d'entreprendre, notamment si on parle de liberté d'entreprise, mais ça n'empêche pas à l'État de donner des directions et de réguler. Et je trouve qu'en France, il y a une grosse confusion entre le rôle du politique... et la gestion. C'est-à-dire que la gestion, elle est l'attribut des individus, mais le politique, lui, doit donner une direction et réguler, contenir tous les biais que peut supposer une liberté totale.
Donc vous aussi, vous pensez qu'on peut arriver à un libéralisme raisonnable, comme Gilles Delafond.
Mais en fait, il existe déjà ce libéralisme raisonnable. Les débats politiques en France ont toujours été sur des extrêmes, mais le fait est, c'est que les politiques arrivent à des solutions qui sont intermédiaires et qui ne sont pas aux extrêmes. On n'est pas en Chine, on n'est pas aux États-Unis, en Europe. Et lorsqu'on regarde notamment en Europe du Nord, on a du libéralisme, mais qui est régulé, et dans lequel l'État intervient, jusqu'à même souvent très fort.
Mais on a un taux de suicide élevé.
En Europe du Nord. Mais bon, oui. Après, il y a le climat et la lumière qui rentrent
en jeu. Je dis ça pour choquer, parce qu'on avait...
Moi, opposer libéralisme et décroissance, alors la décroissance, pour moi, là, j'ai du mal avec ça, pour une raison très simple, c'est que, étant dans le domaine de l'énergie, effectivement, dans le domaine de l'énergie, il faudra décroître, et ça c'est incontournable, sinon effectivement on va au suicide, mais par contre, toute l'activité que l'on va avoir en recherche, en développement et en industrialisation de solutions pour faire face à ces enjeux environnementaux que l'on a, ben, cette activité va générer de la croissance. Et on commence déjà à le constater, on voit en Angleterre tout ce qu'on peut voir dans le domaine du bâtiment. Il y a une activité intense pour amener des solutions dans les bâtiments pour qu'ils soient mieux isolés, pour qu'ils soient moins consommateurs d'énergie. Quand on va investir en infrastructure dans le ferroviaire pour remplacer tout le transport routier que l'on peut avoir, etc., tout ça va générer de la croissance d'une manière ou d'une autre, parce que la croissance est un indicateur d'activité.
Merci Jean-François. Je pense que d'ailleurs vous entrez dans le vif du sujet, on y revient dans un instant. Est-ce qu'on peut trouver un accord entre un libéralisme raisonnable et la décroissance ? On poursuit les débats tout de suite sur France Inter, juste après Samia Farhat. À tout de suite.
Éric Lange, ça vous dérange ? 01 45 24 7000 ou sur franceinter.com.
J'ai connu les temps difficiles. Dans la neige, je n'aurais plus froid. Les traversées de déserts arides. J'en ai connu plus que tu me le crois. Thank you.
que les temps difficiles, les temps difficiles, les temps difficiles, les temps difficiles. Le monde tourne beaucoup trop vite. Ouh, 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 je n'y trouve pas ma place. Même si j'ai l'air solide, ouh, 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 que je la joue tenace. Je vois le temps qui défile, ouh, ouh, sans la nuance des sentiments. Ouh, ouh, et si toutes les couleurs y passent, ouh, ouh, rien ne brille vraiment. Tu le papa, pas le papa, tu le papa, pas le papa, tu le papa, pas le papa, ouais, yeah, yeah, yeah. Ouh, ouh, ouais, 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 ouais. J'ai connu les temps difficiles. Ouh, 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 ouh. Dans la neige, je n'aurais plus froid. Les traversées de déserts arides, yeah. J'en ai connu plus que tu ne le crois. J'en ai connu plus que tu ne le crois. J'en ai connu plus que tu ne le crois. J'en ai connu plus que tu ne le crois. J'en ai connu plus que tu ne le crois.
1 700 000 à ma gauche. Et là, j'ai 1 800 000 dollars, j'ai 1 800 000, 1 900 000, une nouvelle offre ici, 2 millions sur ma droite, monsieur, 2 100 000.
Achète un poêle au-dessus du cours actuel, rafle tout ce qui passe, récolte à plein panier jusqu'à 22, prix plafond.
Wall Street ou les oiseaux ? Il va falloir choisir décroissance ou libéralisme. On se rend compte que finalement, tout ça se rejoint un petit peu. On va revenir sur l'idée, est-ce que tout cela est idéologique ? Est-ce qu'on est en train d'avoir un débat et une lutte idéologique entre le libéralisme et la décroissance ? Ou est-ce qu'on a un débat de constat, Gilles de la Fondon ?
Non, je ne crois pas que ce soit idéologique. On fait un même constat qui est celui de la mondialisation et des angoisses qu'elle peut générer chez les uns et chez les autres. La mondialisation, c'est quoi ? C'est l'interdépendance incroyable des différents états de la planète, des différentes sociétés auxquelles on assiste ces dernières années, à cause de la dérégulation financière, à cause de la démocratisation des sociétés, à cause de la multiplication des échanges. On a un monde qui est totalement bouleversé, qui va à une vitesse incroyable, et nous, à l'intérieur de ce monde, on peine à se repenser. Mais le constat qu'on fait, que ce soit Nicolas et moi-même, c'est que finalement, on doit se repenser à l'intérieur de ce monde. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes réponses, mais on le fait, ce constat, il est évident. On ne peut pas aller dans une fuite en avant éperdue, telle qu'on l'a décrit pour la Chine. Moi, je peux rajouter des chiffres aussi. La Chine, c'est 750 000 décès qui sont prématurés chaque année à cause de la population. Absolument. Donc, à cause de la pollution, Ouais. Oui, de la pollution. Donc, je veux dire, on est dans une espèce de fuite en avant. Mais on sait que ce système capitaliste, entre guillemets, a généré du progrès, il a généré du mieux-être, il a allongé l'existence de vie, il a permis une meilleure alphabétisation, il a permis des différents progrès sociétals. Il n'y a pas que du négatif. Donc, simplement maintenant, c'est un système, on vit encore sur un système qui sort du... qui est post-révolution industrielle. Bon, on doit trouver la façon de se repenser à l'intérieur de ce système, parce qu'il y a quand même une aspiration planétaire, et ça, qu'on le veuille ou non, à vivre comme les Occidentaux. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation ? Qu'est-ce qui angoisse les petits Français que nous sommes ? Eh bien, c'est qu'on était quelques-uns à la table, à se partager le gâteau, et puis depuis une vingtaine d'années, sont venus se greffer 1 milliard d'Indiens depuis que l'Inde a décidé de sortir sortir de son autarcie. 1,5 milliard de Chinois depuis que Deng Xiaoping leur a dit « enrichissez-vous » et 500 millions d'ex-russes soviétiques et de pays de l'Est qui, depuis que le mur de Berlin est tombé. Tous ces gens-là, ça fait pratiquement 2,5 milliards, 3 milliards d'êtres humains qui se sont mis dans le marché mondial avec pour aspiration des télévisions, des 4K, des DVD et pouvoir aller au supermarché du quartier pour bien manger. Bon, ils veulent ce mode de vie occidental. Maintenant, ça explose. On doit se repenser, on doit trouver une façon de canaliser tout ça. Ça, le constat, on est d'accord là-dessus.
Donc pour vous, Gilles Delafond, on peut repenser le système à l'intérieur du système.
Exact.
Pour vous, Nicolas, non, il faut en sortir.
Moi, je pense
et le réinventer.
Oui, je l'ai dit en introduction, la décroissance, c'est un terme qui est un petit peu choquant, qui veut réveiller un peu les esprits pour faire un pas de côté, comme disait déjà GB à l'époque de l'an 01, donc c'est pas nouveau, tout ça c'était dans les années 70. Hein. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire faire un pas de côté, prendre du recul, parce que ce système, avec cette croissance folle, il est productiviste par nature. Et le constat que font les scientifiques, les psychologues, encore une fois, c'est que la planète a des limites, l'être humain a des limites. Donc que ce soit l'environnement, que ce soit notre propre psychologie, quand Gilles Delafond disait tout à l'heure que tout le monde aspire à avoir le mode de vie occidental, bien sûr qu'il y a eu des progrès et qu'on ne peut absolument pas les nier. Comme je le disais tout à l'heure, le début de la courbe de la croissance, tout le monde peut s'accorder dessus et on peut avoir une empreinte écologique qui est soutenable pour la planète entière. Il n'y a pas de problème à mon sens. Là où ça se gâte, c'est si cette croissance est érigée véritablement en une fin en soi. Et là, on percute toutes les limites les unes après les autres. Donc, dans l'environnement, on en a parlé. Dans notre psychologie, on n'en a pas encore parlé. Ça, c'est un autre sujet. On le disait avant l'émission, tous les trois. Est-ce qu'il n'est pas choquant qu'en France, on soit les champions du monde de la consommation des antidépresseurs, des psychotropes? Est-ce qu'il n'est pas choquant qu'au Japon, qui est une économie très forte, eh bien le Japon soit malheureusement le triste recordman du monde du taux de suicide chez les jeunes? Donc ça montre que ce confort, on est encombré par des objets matériels, on se demande si c'est nous qui possédons les objets ou est-ce que c'est les objets qui finissent par nous posséder? Donc, l'idée de la décroissance, c'est de dire si on reste dans le système, c'est du développement durable, on pourra en reparler si les auditeurs s'intéressent à cette question-là, et on rate vraiment l'essentiel. Je vais prendre juste un exemple qui est le protocole de Kyoto. Kyoto, pour moi, c'est vraiment à saluer dans le sens où c'est un accord international. Donc, c'est très, très fort d'arriver à mettre toutes les nations d'accord autour d'une table.
Presque toutes.
Presque toutes. Mmh. Et particulièrement, voilà, manque les États-Unis à l'appel, par exemple, qui sont parmi les principaux émetteurs. Donc, Kyoto, a priori, c'est très bien. Mais quand on regarde Kyoto, ce sont des compromis parce qu'il faut bien faire avec, justement, le système économique mondial. Donc, Kyoto, c'est quoi aujourd'hui? C'est un objectif de réduction des gaz à effet de serre d'à peu près 6%.
Oui.
Globalement. Mmh. Que nous disent les scientifiques? Encore une fois, ce n'est pas des foufous de la décroissance. Ce sont les scientifiques, les 3000 du groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC. Ils nous disent que pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il faut réduire de 75%. Donc Kyoto, c'est une réduction de 6%. Ce qu'il faudrait, c'est 75%. Donc là, c'est là qu'on voit que si on reste enfermé dans le système, si on ne fait pas ce que disent les anglo-saxons, disent « think out of the box », hein, essayer de penser en dehors du système, alors ce système productiviste ne nous permet pas de nous poser les bonnes questions.
Je suis d'accord avec vous, mais alors la question que je vous pose, c'est comment vous faites? Parce que ce système dans lequel on est, il est le système qui est produit par des sociétés démocratiques. Or, à l'intérieur de ces sociétés démocratiques, il y a quand même une information qui circule, les gens sont au courant de ça, mais vous n'avez jamais de gens qui accepteront une décroissance qui se traduira, vous le savez, à l'intérieur du système économique dans lequel on est, par des licenciements et par une baisse du niveau de vie.
Ça... Non, moi, bon, deux choses là-dessus. Première chose, c'est on prête des intentions aux gens. Je pense qu'il faudrait vraiment leur demander. Là, quand vous dites les gens sont informés, on sait ce qu'il en est. La plupart des médias, on connaît la proximité des médias et du pouvoir. Donc, il y a des informations qui ne circulent absolument pas dans les médias. Donc, je crois que là, il y a sans doute un effort pour améliorer le système démocratique. Parce que moi, je suis évidemment un démocrate hyper convaincu. Donc, il faut rester dans ce système-là. Mais il faut sans doute le renforcer. Quand on parle des licenciements et compagnie, La décroissance ou la croissance avec un A privatif, comme on l'a dit, c'est changer de paradigme, pour utiliser un grand mot ou un gros mot, c'est changer de notre façon de voir les choses, c'est essayer de bâtir une société qui serait plus fondée sur l'être que sur l'avoir. Et là où ça ne marcherait pas, c'est si on appliquait ponctuellement des mesures d'objection de croissance ou de décroissance dans une société qui reste conçue par et pour la croissance. Mmh. C'est là effectivement que ça ne marcherait pas.
Nicolas, il part vraiment loin, lui. Il faut vraiment.
Si on cite Hannah Arendt, vous vous souvenez, la philosophe, hein, oui. Dans les années 50, elle publiait des choses déjà sur le chômage qu'elle avait anticipé et elle disait rien de pire qu'une société de travailleurs sans travail. Et on pourrait reprendre sa phrase pour nous en disant rien de pire qu'une société de croissance conçue par et pour la croissance, sans croissance. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement se réapproprier la démocratie pour porter un autre modèle de société.
Alors je vous arrête tous les deux parce qu'il y a Luc qui nous appelle de Belgique. Bonjour Luc.
Bonjour.
Merci beaucoup.
De m'accueillir.
Je vous en prie. Vous allez un peu dans le sens de Nicolas. Vous vous dites finalement, on est en train de parler de qu'est-ce qui va dominer au 21e siècle. Vous vous dites non, il faut carrément inventer autre chose aussi.
Je dis pour commencer qu'on n'est jamais qu'au début du 21e siècle et que les incertitudes sont telles, quelles que soient les thèses que l'on défend. D'ailleurs, vos deux interlocuteurs les soulignent chacun à leur manière, qu'il est à tout le moins prématuré de proclamer un vainqueur pour le 21e siècle. On fera les comptes un peu plus tard.
Alors disons que le libéralisme a gagné le 20e alors.
Oui, en tout cas, je vous accorde qu'il a peut-être bien commencé le 21e, mais on n'est pas encore à l'heure des bilans. Par ailleurs, il faudrait s'entendre sur le sens du mot libéralisme, parce que entre le libéralisme tel qu'on le proclame et tel qu'on le théorise, et le libéralisme tel qu'on le pratique, il y a plus qu'un gouffre. Ce que j'observe, moi, c'est que les grands défenseurs du libéralisme ont essentiellement horreur de la concurrence et du risque, et adorent les subventions publiques. Et que le libéralisme, même dans le pays phare du libéralisme économique que sont les États-Unis, on en est très loin. Les États-Unis sont, par exemple, un pays extraordinairement protectionniste.
Keynésien.
Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Oui.
Tout à fait.
En fait, ce sont des libéraux, des faux libéraux.
Exactement.
Totalement.
Ce sont des libéraux nationalistes.
C'est une usurpation et c'est une manipulation, parce que le libéralisme, ça plaît. Hein, ça plaît. Il y a l'idée de liberté, donc forcément, ça plaît.
Bah, ça ne plaît pas partout. Hein.
Oui, enfin, une petite précision peut-être. Là, on confond le libéralisme auquel j'adhère complètement, qui est le libéralisme issu des Lumières. Et ça, c'est un libéralisme qui promeut la liberté, l'autonomie de la personne.
La propriété privée.
Et peut-être la propriété privée, dans les limites de ce qui est raisonnable et qui ne nuit pas au bien commun. Mais par contre, là, on confond ce terme-là avec le néo ou l'ultra-libéralisme, où là, c'est la fameuse, vous vous souvenez, hein, dans le TCE, la concurrence libre et non faussée, qui, elle, probablement va à l'encontre de bien des éléments du libéralisme vrai, des Lumières.
Alors, on va revenir sur la décroissance et une application directe de cette décroissance avec un reportage d'Antoine Lee. Je ne sais pas si vous connaissez les AMAP, c'est des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Alors, si vous voulez voir un spectacle assez amusant, vous venez dans le quartier de Radio France le jeudi et vous allez voir plein de salariés et plein d'employés de Radio France sortir de la maison de la radio avec des paniers. Et dans les paniers, il y a des fruits et des légumes. Et ces gens-là font partie d'une AMAP et Antoine Lee les a rencontrés.
Alors pour 15 euros, on a 1,5 kg de tomates, on a 800 g de mirabelles, 4 courgettes, 600 g de haricots, une salade et 500 g de pommes de terre.
Alors là, vous avez vos sacs.
Mon panier et je vais aller me servir de tout ce qui est écrit sur la liste et peser moi-même et mettre dans mon panier. Une belle salade.
Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la MAP ?
Je me suis dit, mais c'est super d'avoir affaire directement à celui qui produit en fait, les légumes et les fruits. Ça évite de payer des intermédiaires, donc pour nous c'est moins cher. Et puis il y a aussi un autre échange, c'est qu'il nous propose d'aller chez lui, voir comment il travaille. On peut éventuellement aller lui donner un coup de main une fois de temps en temps. Enfin, il y a un vrai échange humain en plus du fait d'être des acheteurs, quoi.
Mais non, j'ai pris déjà les haricots, moi.
Je vous présente Michel. C'est le producteur de tous ces bons légumes là, qu'on vient chercher toutes les semaines.
Est-ce que vous travaillez de temps en temps avec la grande distribution ?
Non, on travaille pas qu'à la grande distribution. Il faut produire pour rien pour qu'eux aient des marges suffisantes. Puis on peut partir du circuit du jour au lendemain. J'ai eu un exemple à côté de chez nous, c'était pas des légumes, c'était des plantes vivaces qui étaient vendues à des petits détaillants. Puis un jour, il y a offert un gros marché. Et du jour au lendemain, le gros marché, ils ont dit, nous, on se tourne vers la Hollande. La maison a coulé, les banques ont vendu tout ce qu'il avait. Il a tout perdu. Arrivé à l'âge de la retraite, ils ont vendu son pavillon, tout ce qu'il avait. Tout.
Bon, ben alors je vais prendre, donc il me reste deux courgettes à prendre. Je vais prendre deux comme ça, voilà, parfait. Le système de la MAP, c'est finalement une espèce d'abonnement. On s'engage pour 6 mois, donc on paye d'avance. Et l'agriculteur a la certitude qu'il va vendre la quantité de produits qu'on lui a commandé.
Est-ce que c'est quelque part un acte militant pour vous ?
Oui, c'est un acte militant, oui. Oui, ça c'est sûr. C'est le choix de payer finalement au producteur un prix qui est plus en rapport avec le prix de revient finalement. C'est d'acheter des produits à un producteur qui est proche. En plus, on a des produits de saison qui n'ont pas fait 10 000 km dans des frigos. Parce qu'effectivement, ça se fait. Il y a beaucoup de produits qui nous arrivent de tout un tas de pays dans le monde entier. C'est une alternative au système libéral. L'agriculture est arrivée maintenant à un point où c'est devenu une industrie, quoi.
Nicolas Ridoux, c'est bien une illustration de ce que pourrait être la décroissance appliquée à notre vie de tous les jours.
Oui, c'est un bon exemple. Ça fait partie de ce qu'on peut ranger dans la catégorie relocalisation de l'économie, c'est-à-dire essayer, lorsque c'est possible, de diminuer la distance producteur-consommateur. Hein, donc ne pas faire, comme on l'a vu, hein, plusieurs exemples, hein, le pot de yaourt en introduction de l'émission, les fameuses tomates qui sont produites à Almeria, vous savez, au sud de l'Espagne, dans des serres qui sont gigantesques, dans des conditions qui sont tout à fait inhumaines. Donc on a des gens qui travaillent sous des nuages de pesticides, qui sont des émigrés. Enfin bon, on passe les détails. Donc on fait venir des tomates en Hollande et on envoie des tomates de Hollande en Espagne, etc. Enfin bon, donc là on voit qu'on est dans un bougisme, comme dit Taguieff. Hein, c'est-à-dire il faut que le système tourne, quelle que soit la pertinence du mouvement. On est vraiment comme un petit hamster qui tourne dans sa roue. On lui demande de tourner toujours plus vite. Sans lui dire dans quelle direction il va, quoi. Est-ce qu'il est bien pertinent ? Je me souviens d'Albert Jacquard qui disait quand est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'il ne sert à rien d'aller vite lorsque l'on tourne en rond ? Il parlait notamment de la Formule 1, hein, les circuits de Formule 1. Bon. Il posait la question du sens, en fait. Quel est le sens ? Et là, c'est une question peut-être un petit peu spirituelle ou philosophique ou éthique. Quel est le sens de nos vies ? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies ? Quelles sont nos valeurs fondamentales sur lesquelles on se rejoint tous ? Quelles sont les valeurs humanistes ? Je vais prendre juste un exemple et puis je rendrai la parole ensuite. Si on prend l'essor des grandes surfaces, qui justement s'oppose aux AMAP, c'est un peu l'antithèse de l'AMAP. Les grandes surfaces, c'est un succès du point de vue de l'économie. C'est quelque chose qu'on peut saluer. Par contre, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde du point de vue social, alors il y a quelqu'un comme Christian Jacquiot, vous connaissez peut-être, un expert comptable qui a fait un bouquin qui s'appelle « Les coulisses de la grande distribution » qui nous dit « Pour un emploi créé dans la grande distribution, c'est 5 emplois qui ont été détruits dans le petit commerce ». Donc déjà, du point de vue social, c'est moins glorieux. Alors du point de vue économique, c'est parfait, croissance, etc. Et du point de vue environnemental, on fait venir des denrées de l'autre bout du monde, produites dans des conditions telles qu'on préfère ne pas trop regarder comment on les a produites, hein, que ce soit en Chine ou ailleurs. Donc quand on prend comme ça du recul et qu'on regarde tout le système de façon globale, on se dit, est-ce que vraiment cette croissance du PIB, hein, puisque là, on n'en a pas parlé, mais la croissance, c'est la croissance d'un indicateur économique, ne cacherait-elle pas des horreurs du point de vue de nos valeurs humanistes ? Et si oui, quel autre système, quelles alternatives on pourrait proposer qui, justement, sont libérales dans un sens, c'est-à-dire qui restaurent l'autonomie et la liberté des personnes ?
Je fais juste une petite parenthèse sur cette histoire de libéralisme parce que je reçois des mails qui me disent « Mais je ne comprends pas comment vous faites un débat sur libéralisme alors que vos deux invités se réclament du libéralisme. » On se retrouve coincé. Non, c'est pas...
non, mais
en fait, il y a aussi une ambiguïté sur le terme libéralisme. Aussi
non, mais par exemple, vous parliez des grandes surfaces, mais les grandes surfaces, c'est quand même, d'abord, ça a été pour des millions de gens même. Alors, je suis d'accord avec vous sur la critique, surtout, mais pour des millions de gens, ça a été la capacité d'avoir accès à des produits auxquels ils n'avaient pas fortement accès et à un coût auquel ils n'avaient pas forcément, qu'ils ne pouvaient pas forcément payer. Donc, ça a été un mieux-être pour leur vie. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on vit dans un système où on ne veut pas payer. Il a un coût, ce système.
Mais est-ce que c'est un mieux-être ? Est-ce que c'est un mieux-être d'avoir tous accès, par exemple, au saumon ? Quand j'étais petit, le saumon, ce n'était pas achetable et c'était beaucoup trop cher.
Ça, c'est la question.
Aujourd'hui, tout le monde a du saumon. Mais voilà. Le saumon, il est tout pourri.
Ça, c'est la question. Ça, c'est la vraie question. Cela étant, personne n'oblige les gens à aller acheter du saumon. Hein. On est dans des sociétés démocratiques. S'ils vont acheter du saumon et en consommer, bon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous parliez du yaourt. L'autre jour, j'étais à l'aéroport de Washington et j'achète une bouteille d'eau par hasard. Et je vois, alors elle était très jolie, était écrit « Île Fidji » dessus. Alors d'abord, je ne savais pas qu'on produisait de l'eau pure aux îles Fidji. Mais quel est l'intérêt, effectivement, de faire venir de l'eau pure à Washington, des îles Fidji? Effectivement, là, on est dans
le coup marketing.
Là, oui, dans le coup marketing ou dans de l'aberration. Bon, cela étant, on est dans un système qui n'est pas parfait, mais comme disait très justement Pascal Lamy, tout ce qu'on a essayé de lui substituer jusqu'à maintenant, ça a échoué. Bon.
Oui, mais est-ce que ça n'a pas fait un effet tampon qui a permis de ne pas laisser le capitalisme ou le libéralisme aujourd'hui naviguer tout seul?
Écoutez, je ne suis pas sûr, poser la question aux gens qui ont subi l'effet tampon pendant des années derrière le rideau de fer ou en Chine ou je ne sais pas où, je ne suis pas sûr que le fait d'avoir joué les tampons, ça leur a beaucoup plu. Mais bon, maintenant, ce que je pense par contre, c'est qu'à l'intérieur de ce système, il faut prendre conscience que les problèmes ne peuvent être réglés que de façon transnationale. Tout est devenu interdépendant. Vous parliez du climat, vous rappelez, on se rappelle tous de cette histoire quand il y avait eu l'affaire de Tchernobyl, où il y avait un esprit brillant en France, je ne rappelle plus qui c'était, qui nous avait expliqué que le nuage s'était arrêté aux frontières françaises. Bon, bah, depuis on a compris qu'avec la mondialisation, tout est interdépendant, que ce soit le terrorisme, que ce soit les échanges. Bon, où on décide de mettre en place au niveau planétaire des règles, et je pense que les institutions existent, et d'ailleurs les combats sont très forts au sein de ces institutions. Prenez les combats au sein de l'OMC, on n'en parle pas parce que ça barbe tout le monde. Mais ce qui s'y joue, c'est ni plus ni moins que les règles du commerce mondial entre des pays émergents comme le Brésil, l'Inde, la Chine et les pays du Nord comme l'Europe et les États-Unis. Et c'est là que se définissent les règles de demain et c'est là que se définissent de savoir si l'Afrique pourra survivre en tant que puissance agricole ou est-ce qu'elle va subir. C'est pour ça que sans prise en charge totalement transnationale de tous nos problèmes, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Moi, je pense que le système, c'est le bon, simplement c'est le régulateur qui, pour l'instant, fait un peu défaut. C'est un peu l'arbitre qui est assis sur le banc de touche au lieu d'être au milieu du terrain.
Et l'arbitre qui touche aussi au passage, d'ailleurs.
Oui.
L'arbitre est actionnaire dans notre histoire,
oui,
pour l'instant.
Absolument.
Hein. Nicolas.
Oui, moi, je suis d'accord là-dessus. Bien évidemment, maintenant, on est dans des systèmes qui sont interdépendants complètement, donc les problèmes ne peuvent être réglés qu'à un niveau supranational, international. Il est symptomatique, Gilles Delafont mentionnait l'OMC, je trouve qu'il est symptomatique de voir que l'OMC existe et il n'existe pas d'OME, d'Organisation Mondiale de l'Environnement.
Malgré le vœu de notre ancien président Chirac. Qui avait
exactement. Donc on voit bien quelles sont les priorités du système, justement. Les priorités, c'est l'économie. Alors l'économie, pourtant, oikos nomos, en fait, c'est la gestion du domaine, si on prend l'étymologie. Donc c'est l'homme qui gère son domaine.
Oui, mais justement, je crois que la solution, elle est là. Vous parlez de l'économie. Mm-hmm. La question environnementale ne peut-elle pas, je pose la question, je suis allé dans la Silicon Valley où j'ai vu tous les gens qui avaient pendant des années fait des millions de dollars sur l'Internet, maintenant se pencher sur ce qu'on appelle le clean tech et le green tech, c'est-à-dire le solaire, l'éolien, l'hydrogène, les différents modes de propulsion, d'essayer de rechercher dans la science les réponses aux défis de demain.
Ils font pas ça pour faire le bien de la planète, ils font ça parce que c'est un nouveau business.
Oui, mais justement, le moteur, tout ce qui a été fait par le capitalisme aujourd'hui, il a été fait non pas pour améliorer le bien-être des peuples, mais pour faire de l'argent.
C'est intéressant de noter cette phrase.
Mais bien sûr, il se trouve que ça a fait le bien-être des peuples. Bon,
ça, c'est discutable.
Mais maintenant, la question est de savoir si, au sein de ce système, on peut pas repenser des modes de fonctionnement pour trouver effectivement, asseoir un développement durable digne de ce nom et asseoir des modes de croissance qui soient durables et véritables.
Alors je vais terminer ma phrase puisque
juste pour
finir. Un petit peu interrompu par Gilles. Aujourd'hui, donc, l'économie, c'est la gestion de l'homme, c'est l'homme qui impose sa gestion aux éléments. Alors que là, on est dans un système où on nous dit l'économie, c'est une loi un peu une loi cosmique, comme une loi physique, si vous voulez, qui s'impose à l'humain. Là, je crois qu'on a complètement dévoyé ce qu'est l'économie. Pour répondre à ce qu'il disait ensuite sur le système et les découvertes scientifiques, moi, je suis scientifique, je suis ingénieur, une formation scientifique, donc j'apprécie évidemment énormément la science. Mais je ne suis pas scientiste dans le sens où je ne fais pas de la science la fin à toutes les questions et la réponse à toutes les questions que se pose l'homme.
Plus.
Juste pour prendre un exemple tout simple, vous avez parlé des modes de déplacement, la voiture par exemple.
Oui.
On fait des voitures qui sont en permanence moins polluantes, qui consomment moins, etc. Mais le problème, c'est qu'on est confronté à ce qu'on appelle un effet rebond, C'est-à-dire qu'on a une augmentation des quantités produites, on a une augmentation des distances parcourues, on a une augmentation du poids des voitures parce qu'il y a des systèmes de sécurité qui sont lourds, etc. Au global, on consomme et on pollue toujours plus. Et donc, on est dans le développement durable, où tout le monde fait du développement durable. Je ne connais pas une entreprise, même la plus polluante, qui ne se réclame pas du développement durable. Et quand on regarde les courbes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, elles sont perpétuellement croissantes, malgré ce que nous disent tous les scientifiques qui tirent désespérément la sonnette d'alarme.
Je voudrais faire un tour au standard avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous êtes là ?
Oui.
Oui.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien. En deux mots, vous soulignez...
Deux mots, il y a déjà une chose sur l'écologie, je n'ai pas parlé de là, mais c'est il y a beaucoup de scientifiques aux USA, en Angleterre, qui disent qu'on est en train de nous manœuvrer. Et y compris, il y a une courbe du GIEC qui a été dans un rapport complètement truqué pour dire « Ah, mais le XXe siècle a été le plus chaud » et puis gommer des choses. Donc,
vous entrez dans un autre débat sur la remise en cause.
Ce qu'on abordait. Mmh. Et un mot de conclusion sur ce point. Il n'est pas vrai qu'on va dans un réchauffement et que ce réchauffement est dû à l'activité humaine.
Alors, il va falloir que je fasse une autre émission là-dessus.
Ça, c'est nier les conclusions de 3000 scientifiques.
On va appeler Claude Allègre pour faire ça, vous dérange.
Mais ils peuvent prendre des scientifiques qui ne sont pas la pensée correcte, mais... payée par l'État en France pour claironner.
Jean-Pierre, je ne veux pas revenir sur le politiquement correct, mais c'est un autre débat.
Sur le fond de l'économie. Il faut peut-être aller aux fondamentaux. Le libéralisme, entre autres, la France y est pour beaucoup par ses théoriciens, Jean-Baptiste Say, Bastia, et y compris il y a des profs comme Jacques Garello à Aix-en-Provence ou Pascal Salin qui a fondé entre autres la Société du Mont-Pèlerin et qui enseigne à Dauphine et qui a écrit « Qu'est-ce que le libéralisme ?» Alors je ne crois pas qu'en France, en soit dans un pays libéral ou ultra-libéral, puisque, par exemple, on travaille pour les prélèvements obligatoires jusqu'au... On vient de quitter le travail pour le prélèvement obligatoire. On travaille jusqu'au 23 juillet, puisque tout est pris jusqu'au 23 juillet par l'État, les prélèvements sociaux. Alors, j'ai entendu aussi, l'économie, il faut partager, mais l'économie n'est pas un gâteau. Comme l'exemple, encore que sur les chiffres, je pourrais peut-être les discuter, mais dire comment les supermarchés ont créé des emplois...
On détruit 5 emplois pour en créer un.
Mais ils en ont détruit, et bien que comment cet économiste brillant invité, là, je ne sais pas si l'économiste, mais qu'il fasse le sapeur camembert, c'est-à-dire qu'on creuse un trou et qu'on le rebouche, et qu'on creuse un trou encore plus loin et qu'on le rebouche. Et une dernière chose sur l'énergie, je crois qu'on a peur des inventions nouvelles, y compris si on paye moins cher, même s'il y a un prélèvement obligatoire pour le comité d'entreprise et le PC par l'EDF. C'est en France où elle est la moins chère parce qu'il y a l'énergie nucléaire. Et d'autre part, Cécile Philippe, qui a fait une enquête, a montré que depuis le début du XXe siècle, on nous disait « mais on ne va plus avoir de pétrole en 1920, le pétrole est fini, le charbon aussi est fini ». Donc on est en train de nous manœuvrer avec des...
En fait, vous nous dites qu'on crée des peurs pour nous manipuler.
En plus, on n'a aucun raisonnement et un raisonnement contre la liberté qui va se traduire par plus de prélèvements obligatoires.
Je vous mettais dans la mouise. Jean-Pierre, je vais être obligé de faire une émission demain sur les peurs réelles ou pas. En tout cas, merci d'être passé. Je suis étonné parce que je m'attendais à avoir un débat pour définir la décroissance et depuis le début, je me rends compte qu'on est en train d'essayer de définir le libéralisme. Alors, attendez, on va écouter Carla Bruni pour se reposer et on va essayer d'apporter une conclusion parce que je regarde l'heure, il est déjà presque 1h10. Et oui, je sais, ça passe vite. Carla Bruni sur France Inter et on conclut. Never false, never true. Let us hold the die and cast. Free to come as free to go. For I cannot know your past, and of mine what can you know? You so warm may once have been warm towards another one. I so cold may once have seen sunlight. Once I fight the sun, who shall show us if it was? Thus indeed in time of old, fades the image from the glass, and the fortune is not told. Mm-hmm.
If you promised you might grieve for lost liberty again, if I promised I believe should fret to break the chain, let us be the friends we were, nothing more but nothing less. Many thrive and frugal fare, who would perish of excess? Promise me no promises. Promise me no promises, so will I not promise you. Keep we both our liberties, never false, never true. Let us hold the die and cast, free to come, free to go. For I cannot know your past, and of mine what can you know? Promised you might breathe for lost liberty again. If I promised, I believe I should try to break the chain. Let us be the friends we were, nothing more, nothing less. Many thrive and frugal fare, who would perish of excess? Promises like pine crush. Promises like pine.
Et on va essayer de conclure. On va pas faire un choix parce qu'a priori, après 7 heures de discussion, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de choix entre le libéralisme et la décroissance, mais plutôt essayer d'inventer quelque chose qui soit au croisement des deux, si je vous comprends bien tous les deux. Y a une question qui arrive, je suis désolé, on ne peut pas prendre tous les auditeurs au standard, vous êtes très nombreux, une question qui arrive de Hubert qui nous dit « De toute façon, il n'y aura pas de solution tant qu'il n'y aura pas de décroissance démographique. » Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Nicolas ?
En forme de boutade, bon, pour répondre tout de suite, moi je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'on est trop nombreux sur la planète. Il peut y avoir localement une surpopulation dans certains pays d'Afrique, etc. C'est possible, je ne suis pas du tout spécialiste, mais globalement, on n'est absolument pas en situation de surpopulation. Par contre, qu'il y ait trop d'automobilistes, qu'il y ait trop de vaches, hein, vous savez sans doute qu'une vache européenne touche plus d'argent qu'un Africain, 2,5 $ par jour de subvention, quand un Africain gagne moins d'1 $ par jour. Donc je pense qu'il y a effectivement un cheptel qui utilise des capacités productives pour fabriquer de la nourriture. Il faut une calorie, pour en fabriquer 10 de calories carnées, il faut une calorie végétale, etc. etc. Je ne peux pas tout vous dire maintenant. Mais... Donc moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'il faut... Une décroissance démographique.
Une question qui arrive de Pierre aussi en Belgique. Là, je vais me tourner vers Gilles Delafont. Qu'est-ce qui coince dans la gestion rationnelle des richesses ? Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à gérer nos richesses convenablement ?
Ouf ! Redis-moi ça doucement.
On a toutes ces richesses.
Des richesses quoi, énergétiques ?
Les richesses en général, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mieux répartir ces richesses dans le monde ?
Les 1000 milliards de dollars.
Est-ce que, non, mais on en arrive à la question, c'est est-ce qu'il faut une gouvernance mondiale pour gérer tout ça ?
Je pense qu'il faut une forme de gouvernance mondiale, mais qui ne soit pas un frein au libre-échange. Moi, je suis un défenseur du libre-échange parce que je pense que c'est là qu'est, malgré tout, l'avenir du monde. C'est là qu'est... c'est le profit à générer le progrès. Bon, maintenant, le profit est destructeur. Il faut trouver un moyen de générer du progrès en générant le moins possible de destruction. C'est l'équation qu'il faut résoudre. Moi, ce que je dis, c'est que le monde a énormément changé, mais qu'on n'a pas repensé nos façons de voir ce développement. Effectivement, et c'est ça qu'il faut trouver.
Nicolas, il faudrait faire des lois plus restrictives et...
Oui,
est-ce qu'on doit freiner nos libertés individuelles pour sauver l'ensemble ?
Encore une fois, non, c'est pas ça. Parce que dans la décroissance, il y a un des slogans qui dit « moins de biens, mais plus de liens ». C'est-à-dire, en gros, effectivement, faire un échange entre des possessions matérielles dont on déborde en moyenne en Occident. Il ne s'agit pas de plus avoir de possessions matérielles. C'est pas du tout ça, il ne faut pas caricaturer, mais réduire nos possessions. Et par contre, augmenter nos liens, les liens interpersonnels entre les personnes qui sont en train de se réduire. Parce qu'on sait bien que l'être humain, il se constitue énormément avec les liens. C'est ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. C'est hyper important. Donc là, on est en train de créer ce que Jacques Généreux a appelé une dissociété. C'est une juxtaposition d'individus dissociés les uns avec les autres qui sont sans arrêt en train d'être en compétition les uns contre les autres. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement sortir de ce système. Je ne pense pas qu'on puisse aménager un système qui, par nature, est productiviste, qui vise le toujours plus. Je pense que là, il faut arrêter et dire « plus n'est pas forcément mieux ». Et repenser les données de l'équation. Pas toujours être dans le quantitatif, mais être plutôt dans le qualitatif. Donc,
Si vous aviez, pour terminer, l'un et l'autre, des mesures concrètes, là demain vous avez le pouvoir, Nicolas Ridoux, demain qu'est-ce que vous faites pour améliorer tout ça ?
Alors si j'avais deux mesures là comme ça qui me viennent à l'esprit, ce serait un, tenter de restaurer l'esprit critique, donc des mesures concrètes, ce serait créer des médias réellement indépendants. Ça veut dire des médias qui ne seraient plus sous l'emprise de la publicité, par exemple, qui ne vivraient pas exclusivement de publicité, mais qui seraient financés par leurs lecteurs. Ou bon, c'est avoir des médias indépendants pour restaurer...
Ce qui est complètement contradictoire avec ce qui se passe aujourd'hui, où on est dans l'ère du soi-disant tout gratuit.
Voilà, donc quand on est gratuit, c'est que ça ne vaut pas cher.
Hein,
c'est que ça ne vaut pas bien cher hein, quand c'est gratuit. Hein, et c'est financé par de la pub. Donc on ne va pas, évidemment, écrire des choses qui déplaisent à notre financeur. Donc,
non, mais après, c'est vrai que c'est une théorie, mais après, on en arrive dans le pratique. Si demain, on dit aux auditeurs, bon ben voilà, maintenant, il va falloir payer 5 € ou 10 € par mois pour écouter une radio ou pour regarder une télévision.
Non, mais de l'argent, il y en a. Attendez, j'ai lu dans le bouquin de Gilles Delafont, on crée 1000 milliards de dollars de richesses supplémentaires chaque année.
Ouais.
Qu'on vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Par ailleurs, c'est exactement la somme qu'on dépense chaque année en armement, par exemple. Hein, 1000 milliards de dollars par an, c'est la somme qu'on dépense pour de l'armement. Bon. Une deuxième mesure pourrait être de réduire l'emprise automobile dans les centres-villes. Redonner la rue aux citoyens, aux enfants, etc. pour recréer du lien et arrêter cette peur où chacun est dans la peur de l'autre. Il est en compétition contre son voisin qui va lui prendre son emploi ou contre le Chinois à l'autre bout de la planète qui lui aussi va lui prendre son emploi, etc. Donc moi, je suis pour restaurer les liens.
Gilles Delafont, vous avez le pouvoir.
Bah déjà, je fais un petit livre. c'est celui que j'ai fait, alors, La Terre ici, la France. Je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est toute cette partie de pédagogie. C'est-à-dire de bien expliquer aux gens qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quand vous consommez quelque chose, pourquoi vous le faites, quand vous obtenez ceci, qu'est-ce que ça coûte. Je crois que ça, c'est important. Et moi, je pense qu'effectivement... La solution passe par une certaine forme. J'aime pas du tout l'idée de gouvernance mondiale parce qu'on a l'impression qu'il y a un grand type qui décide pour tout le monde. Mais plutôt que tout le monde se mette autour de la table et qu'on arrive à établir des règles pour que chacun puisse en bénéficier. Et je pense qu'il faut mettre l'accent de plus en plus sur justement le multilatéralisme, c'est-à-dire il faut redonner toute sa valeur à ces institutions multilatérales comme les Nations Unies. On a vu ce que ça a coûté aux Américains de vouloir faire 100 en Irak. Il faut donner sa valeur à l'Organisation mondiale du commerce qui doit accoucher d'un accord. C'est fondamental, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est fondamental pour les économies émergentes du Brésil, du Mexique, de la Turquie, de l'Inde, mais aussi pour l'Afrique, pour sortir l'Afrique, qui alors que, comme le disait Nicolas, l'Asie monte, l'Afrique plonge. Je pense qu'il faut trouver un mode de système de gestion planétaire des échanges pour que chacun puisse en tirer parti, pour ne pas dire profit.
Écoutez tous les deux, merci d'être passés. Je rappelle vos livres à tous les deux, si les auditeurs veulent aller plus loin. Donc Gilles Delafont, d'un côté, c'est aux éditions de La Martinière et ça s'appelle « Allô la Terre, ici la France ». Donc le thème, un libéralisme, oui, mais contrôlé et domestiqué. Et de l'autre côté, si vous voulez être un peu plus utopiste, si vous voulez aller plus loin, « La décroissance pour tous » de Nicolas Ridoux, c'est aux éditions du Paragon. Merci beaucoup. On a eu énormément de coups de fil, énormément de mails aujourd'hui. Donc c'est un sujet, je pense, dont on reparlera souvent. Allez, on peut le dire, c'est peut-être le débat qui nous intéresse tous et dont dépendra notre avenir au XXIe siècle.
Mais absolument, la mondialisation, c'est ce qui fascine.
Et demain, ça devrait chauffer aussi au standard, puisque nous reviendrons sur le travail le dimanche. On n'en est pas très loin, mais bon. Merci à tous, très bonne journée sur Inter.